Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Comme le disait si justement Philippe Labroux dans son ouvrage Les Saisons, à moins qu'il ne s'agisse de la vie d'un homme, je ne sais plus, je n'ai plus moi-même toute ma tête. Il y a des saisons dans la vie d'un homme. Ou encore, version Game of Thrones, dont l'épisode final est attendu dimanche avec au moins autant de fébrilité que le prochain album de Frank Michael. Winter is coming. Oui, les années passent, et tout lasse, et tout casse, et même roucasse, comme dirait Charline. À moins que ce ne soit Jean, je ne sais plus. Je n'ai plus moi-même toute ma tête. D'ailleurs, je me demande si je ne vous l'ai pas déjà dit un peu plus tôt, un peu plus tard. Il arrive un moment où ça commence à sentir le sapin, et où l'homme se retourne sur le chemin parcouru, en réalisant qu'il n'en a plus parcouru, qu'il ne lui en reste à parcourir. Et quand l'homme qui réalise ça est lui-même réalisateur, bah très naturellement, ça lui donne l'idée d'en faire un film. Et quand ce réalisateur-là n'est autre que Pedro Almodovar, dont les films sont depuis toujours des hymnes à la vie, au plaisir et à l'exubérance latine, cette histoire-là devient alors passionnante, intime et poignante et réconfortante, en ce sens qu'elle nous distrait de nos propres inquiétudes le temps d'observer celle du cher Pedro. Autant dire que c'est d'un beau film, d'un très beau film, dont il va être question aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Pedro Almodovar est notre invité.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, le pop-up de pop-up, celle avec qui nous sommes allés à la rencontre du maestro Pedro, Charline. Hola, Charline.
Hola, Antoine.
Au menu également de pop-up, on va parler de Vivement Dimanche. Non, alors non, pas le Vivement Dimanche de Michel Drucker, mais celui de Shirley Soignon, car c'est le nom du podcast de la jeune stand-upeuse que nous recevrons tout à l'heure. Et comme nous sommes vendredi, vous aurez votre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
T'es qu'une grosse merde et tes problèmes, on s'en fout.
Mais avant ça, quand Pedro Almodovar est au micro de Pop Pop Pop, on lui pose évidemment une question que je pose pour la première fois en espagnol, et cette question c'est...
Para usted, ¿qué es la cultura pop?
Bueno, es la cultura en la que,
bon,
en
la bah,
que
c'est la culture dans laquelle je suis né.
Primero, el pop
d'abord,
de
le pop
60,
des années 60, lorsque j'étais enfant
pueblo,
et que je vivais dans un petit village.
Et
ensuite, le pop
60,
des années 80, lorsque j'étais déjà un jeune homme et que j'écrivais, je chantais. Je faisais de tout. Et j'étais très, très influencé dans les deux cas. Mais surtout dans les années 80, quand j'écrivais, j'étais influencé par le premier pop anglais des années 60 et par le pop américain de la fin des années 70 et des années 80. Disons que c'est la culture à laquelle j'appartiens. C'est très clair dans mes films que la coloration de mes films est une coloration purement pop avec des couleurs éclatantes ou parfois des couleurs pastels, mais qui allient entre elles le son de façon inhabituelle. Mais le pop et le psychédélique surtout le permettaient. Et je crois que de tous les styles artistiques, c'est celui que j'ai vécu le plus profondément et celui auquel je suis encore le plus attaché. Et surtout, la partie la plus amusante et celle qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est-à-dire la fin des années 70 et le début des années 80. La vie qu'on menait à Madrid et la vie que menait le groupe auquel j'appartenais ressemblait beaucoup dans ce qu'il avait de bon, de mauvais et de merveilleux à la vie de la Warhol Factory à New York. Et à la vie nocturne new-yorkaise. Pour les jeunes madrilènes de l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 70 et au début des années 80, on était très, très influencés tant par la nouvelle vague londonienne et le punk que par l'underground américain. C'était, disons, nos écoles.
Pedro Almodovar est dans Pop 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 et c'est un événement pop, la suite de l'entretien avec le pape de la pop espagnole. C'est juste après Bad Guy, c'est un morceau de Billie Eilish.
Creeping around like no one knows. Think you're so criminal.
Bad Guy, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité qui n'a probablement pas besoin d'un pop portrait pour être présenté, mais quand on vient ici, on repart avec. C'est comme ça, c'est comme chez McDo, on repart toujours avec un ballon. Alors qui est cet invité? Repartira-t-il avec son ballon? Réponse avec son pop portrait. Alors son pop portrait, bah, c'est son portrait bien sûr, mais...
À base de pop 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 pop.
Et c'est signé Charline...
C'était une tentative d'espagnol. Aujourd'hui, un invité à qui j'ai envie de clamer avant de lui dire bravo, un grand merci. D'abord parce que je suis polie et que feu ma grand-mère, dans sa grande sagesse, m'a toujours répété « Sois polie, si t'es pas jolie ». Mais aussi et surtout parce qu'à cet homme-là, on doit de multiples apparitions. Et la toute première d'Antonio Banderas, du labyrinthe des passions à douleur et gloire, en passant par Matador, Attache-moi, La loi du désir, Femme au bord de la crise de nerfs, La piel que habito. Mais aussi, merci Pedro pour Carmen Maura, Rossi de Palma, Victoria Abril, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Veronica Forqué dans Kika ou Emma Suarez dans Julieta. Merci pour Javier Bardem dans En chair et en os. Et quelle chair et quels os. Bon, enfin, on ne va pas m'emballer. Merci pour Miguel Bosé. Choucrouté, lamé et sur talons aiguilles dans le film du même nom. Merci pour Gaël Garcia Bernal dans La mauvaise éducation. Et enfin et surtout, merci pour Douleur et gloire, grand film dont on espère que le jury du festival de Cannes saura le primer.
Bien, merci Charline. Parlons des cultura pop avec Pedro Almodovar. Nous lui avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. C'est l'heure de sa pop list. Pardon, de sa pop list. Hop. Oh. Quel est votre livre de référence?
Hay muchos.
Oui, il y en a beaucoup.
Pero,
il y en a
beaucoup. Digamos, voy a escoger mais 2666
disons, je vais choisir 2666 de Roberto Bolaño, qui est un roman immense, d'abord parce qu'il est très long, mais aussi par sa qualité. Il m'a beaucoup impressionné.
Bien, un film.
Como película,
alors, pour le film,
Like
je choisirais certains Lame Show
de Billy Wilder.
D'abord parce que ça me semble un véritable modèle de comédie. Et je crois que chaque fois qu'on est déprimé, il faut se passer ce film pour retrouver la joie de vivre.
Et
ça me semble être un véritable modèle de comportement dans tous les sens. On devrait vivre comme vivent Jack Lemmon, Tony Curtis et Marilyn Monroe dans ce film. Et si les seuls ennemis qu'on ait dans la vie étaient ces types de gangsters qui apparaissent dans ce film, ce serait formidable. Pour moi, c'est vraiment la comédie modèle, la grande comédie de ces plus de 100 ans d'histoire du cinéma. Et j'aimerais que la vie soit comme dans ce film.
I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
Nobody's perfect, ça pourrait être votre gimmick.
Oui, absolument. Je crois que c'est l'expression qui définit le mieux tout le monde, finalement.
Une série télé.
Breaking Bad.
Breaking Bad.
La chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui. Cancer du poumon. Inopérable.
Pourquoi vous êtes là?
Tu connais le business. Et je connais la chimie.
Dites-moi pourquoi vous faites ça. Allez, sérieux.
Je me suis réveillé.
Je me souviens encore parfaitement de chacun des épisodes. Il me semble que Breaking Bad, c'est un peu le Shakespeare des séries télévisées. Et c'est d'ailleurs incroyable qu'ils aient réussi à se renouveler à chaque saison avec autant d'inspiration et d'être de plus en plus profond et de plus en plus impressionnant au fur et à mesure qu'on avançait dans la série. J'ai l'impression qu'au moment où je regardais Breaking Bad, le cinéma de genre aux États-Unis n'arrivait pas du tout à avoir la même qualité que les épisodes de cette série. C'était un peu comme si Scorsese, dans ses meilleures périodes, était en train de signer chacun de ces épisodes.
Et pour finir, Pedro Almodovar, une chanson?
Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi, mais je suis sûr que c'est « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Je crois que c'est la plus grande chanson d'amour. Je n'ai pas souvenir de paroles de chansons aussi émouvantes, aussi brillantes, aussi poétiques que celles de cette chanson. Pour moi, c'est comme un monument, cette chanson. Je l'ai utilisée dans La loi du désir. Non pas la version de Brel, parce que je préfère les versions ou les sous-versions. Et j'ai trouvé une version très intéressante, chantée par une chanteuse brésilienne, Maïssa Matalasso. Et je dois dire que Madame Brel a été très généreuse avec moi, même si je ne la connaissais pas, elle m'a cédé les droits gratuitement. Et ça, c'est vraiment exceptionnel.
Ne me quitte pas, je t'inventerai de mots insensés. Je te parlerai de ces amants-là qui en veulent de voir leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Maïssa Matarazzo qui reprend « Ne me quitte pas ». C'est un titre utilisé par Pedro Almodovar dans son film « La loi du désir ». Bien, passons de Maïssa Matarazzo à Mac DeMarco avec ce morceau « All of Our Yesterdays ».
« the days have gone now. Tearing up, looking for a shoulder to prop you up. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone. Of a memory, another song. All of our yesterdays are gone now. Call me up when you need a shoulder to prop you up. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone.
De Marco dans Pop 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 sur France Inter avec ce morceau All of Our Yesterdays, cet extrait de son album Here Comes the Cowboy qu'on pourrait traduire par Voici le Cowboy, n'est-ce pas?
Tout à fait, Antoine.
Merci, Charline. Retournons papoter maintenant avec le pape de la pop culture espagnole. Vous êtes prête, Charline?
Si, Antoine.
Bien, c'est juste après, bon. Douleur et gloire, c'est votre 21e long métrage, le 8e avec Antonio Banderas, qui joue un cinéaste qui vous ressemble beaucoup. Vous vous étiez promis de ne jamais publier d'autobiographie. Est-ce qu'un film introspectif comme Douleur et gloire a valeur de témoignage?
Oui, bien évidemment, ça a valeur de témoignage, parce que ça part de quelqu'un qui a la même profession que moi et qui a certains de mes problèmes. Mais en même temps, il ne faut pas prendre, ou plutôt ce personnage interprété par Antonio n'est pas exactement, ou plutôt ma vie n'est pas exactement celle du personnage. Disons que moi, j'ai emprunter les mêmes chemins que ceux qu'emprunte le personnage d'Antonio. Mais parfois, je suis partie dans un autre sens. Donc, le film ne peut pas être pris comme une autobiographie littérale, parce que la partie de fiction est bien plus importante que la partie biographique. Mais c'est vrai que sur les 21 films que j'ai faits, celui-ci est sans doute celui qui me représente plus intimement.
Alors, que doit-on dire pour parler du film ? Autofiction, autofiction partielle, film intime ?
Alors c'est tout en même temps. Je crois qu'à partir du moment où on commence à écrire, on établit une distance avec le récit et la fiction gagne du terrain sur la réalité. Et il y a même un moment où la réalité disparaît et il ne reste plus que la fiction. Ce qui est important quand on est en train d'écrire, c'est que puisque on va faire un film, il faut que, en tant que film, ce soit vraisemblable. Et c'est pas important qu'on se soit éloigné de la réalité. Mais, je le dis encore, là, on ne peut pas prendre ce film de façon littérale, mais il y a des scènes précises qui représentent effectivement des moments de ma vie. Il y en a peu, mais il y en a. Mais, par exemple, moi, je n'ai jamais vécu dans une grotte. Mais c'est vrai que ma famille a émigré. On est parti de la Mancha pour aller en Extrémadure. Et donc, je connais ce voyage. À 9 ans, je ne suis pas tombé amoureux d'un maçon, mais ça aurait pu m'arriver. Et c'est donc ce que je veux dire. C'est là qu'il y a cet équilibre entre la réalité et la fiction. Moi, j'aurais pu faire tout ce qu'a fait ce personnage, mais je ne l'ai pas fait. En réalité.
C'est la troisième fois que vous mettez en scène un metteur en scène, après la loi du désir et la mauvaise éducation. Un réalisateur, c'est toujours un bon héros de fiction ?
Pas toujours. Moi, ce qui m'intéresse véritablement, et depuis le début de ma carrière, c'est la relation entre le cinéaste et la création. Et surtout, ce mélange entre la création et le désir, qui est un mélange parfois explosif. Mais en général, si on y réfléchit, les films où le personnage principal est un cinéaste n'ont pas eu beaucoup de succès, à l'exception de Fellini avec 8,5, ou de La Nuit américaine, ou des Ensorcelés, de, je crois que c'est de Minelli.
Douleur et gloire, c'est l'histoire de Salvador Mayo, réalisateur en souffrance et en pause professionnelle, et le film relate une série de retrouvailles dans la vraie vie et parfois dans les souvenirs de Salva.
No ha sido un buen hijo, hijo mío. No.
No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí.
Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero.
No voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo, cabrón, mira a ti. Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida.
Estoy con Salvador Mayo.
¿Tienes pareja ahora?
Sí. ¿Y tú?
No.
L'appartement dans lequel évolue Salvador Antonio est le vôtre, tout comme le mobilier, le tableau, les tableaux, la garde-robe et la coupe de cheveux aussi. Vous apportez une nuance, cependant vous dites « son personnage n'était pas moi, mais il était en moi ». Dans ce jeu de miroir, que pense le metteur en scène de celui qu'il incarne ? Est-ce que vous vous y retrouvez ?
J'en sais rien, parce que moi, Antonio... Je pense que c'est un personnage de fiction. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens à Madrid, puisque, comme vous le savez, le film est déjà sorti en Espagne. Des gens me disent qu'il y a des moments où Antonio disparaît dans le film et il me voit, moi, à sa place. Et ça, c'est très flatteur, parce que Antonio n'a jamais essayé de m'imiter. Il a fait son travail d'acteur, mais c'est vrai que physiquement, il me ressemble dans le film. Mais je l'ai fait de façon pragmatique, parce que quand on commence à travailler, il faut choisir la coiffure de l'acteur, la maison, les tableaux, ses chaussures. Et moi, je me suis dit, puisque le personnage a la même profession que moi, et qu'Antonio et moi, pendant les années 80, pendant assez longtemps, on était très proches, je trouvais que c'était bien que le personnage me ressemble physiquement. Et la maison, par exemple, pendant le tournage, on me le disait tous les jours, parce que la maison du personnage, c'est une réplique de ma maison. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres chez toi, tu rentres du studio et tu te retrouves dans le même lieu? Est-ce que c'est pas bizarre? Et moi j'ai dit non, pour moi, le studio c'est là où je tourne et chez moi c'est chez moi. Mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir comment Antonio est devenu une partie essentielle de moi-même. En tant qu'acteur, il a une immense intuition. Et je pense que même s'il n'a pas essayé de m'imiter, en quelque sorte, il m'a absorbé. Il s'est imprégné de moi pour donner cette impression que c'est moi. Et en tout cas, la façon dont il représente le personnage me semble excellente, parce qu'Antonio, il est quand même beaucoup plus beau que moi.
Vous dites, ça m'a pris du temps de comprendre qu'Antonio était mon Mastroianni le plus légitime. Comment est-ce que vous l'avez réalisé, finalement ?
Que ce soit Antonio ou moi, nous sommes deux hommes qui nous sommes formés dans la culture des années 80, où Madrid était une véritable explosion de liberté dans tous les sens. Et c'était vraiment une chance d'être jeune pour pouvoir en profiter. Et donc, tous les deux, on a vécu cette décennie et nous sommes, cela nous rapproche. Et quand je dis que c'est mon Mastroianni légitime, c'est parce que avec Antonio, on a eu une relation très étroite depuis 40 ans, même quand il était à Hollywood. Donc Antonio, il me connaît très bien et il a fait 8 films avec moi. Donc je crois que c'était la personne la plus adéquate pour incarner ce personnage. Et puis par ailleurs, je voulais que le personnage ait son âge. Et même physiquement, même si ici, dans ce film, la tessiture d'Antonio est très différente de celle qu'il avait dans les autres films. Ses expressions, son visage, c'est pas l'Antonio avec son côté sauvage. C'est tout le contraire. Au cours des dernières années, malheureusement, Antonio a eu des graves problèmes cardiaques. Il a eu un infarctus. Il a été opéré deux ou trois fois. Et donc, cet Antonio séducteur, si beau, avait déjà sur son visage quelque chose qui le marquait, qui montrait qu'il avait souffert. La douleur était présente sur son visage et ça le rendait beaucoup plus adéquat pour ce rôle.
Quel regard le metteur en scène porte sur l'acteur qu'il a commencé à faire tourner il y a 33 ans dans Matador ? Comment le voyez-vous vieillir ?
Moi, je crois que maintenant, et en particulier après ce film, je crois qu'Antonio entre dans une nouvelle période de sa carrière. Parce que la façon dont il a joué ce rôle, le ton qu'il a utilisé, c'est quasiment complètement opposé à ce qui l'a rendu célèbre jusque-là. C'est même l'opposé de ce que je lui demandais, moi, de faire dans les années 80, c'est-à-dire cette intensité, cette passion. Là, c'est beaucoup plus modulé, beaucoup plus nuancé. Il est beaucoup plus austère, avec des mimiques qui sont minimes, mais qui sont en même temps très profondes et pleines d'émotions. Alors, je ne sais pas ce que va devenir sa carrière à partir de maintenant, mais je crois que c'est un tournant pour ses prochains rôles. Jusqu'à maintenant, il a eu une carrière pleine de succès et c'est très, très difficile, plus que pour un acteur français, pour un acteur espagnol, de triompher à Hollywood à l'époque où il l'a fait. Maintenant, c'est plus commun. Il y a Javier Bardem, il y a Penélope Cruz aussi. Mais dans les années 90, quand Antonio est parti aux États-Unis, c'était le premier espagnol à travailler véritablement à Hollywood. À l'exception, et encore dans un seul film, de Fernando Rey dans French Connection, où il il jouait un rôle secondaire, mais quand même important. Mais aucun acteur espagnol n'avait réussi à s'installer à Hollywood et à acquérir une certaine notoriété. Et donc, je crois qu'il marque un vrai jalon dans la culture espagnole et dans le monde des interprètes espagnols. Et puis, lui, à Hollywood, il a changé comme acteur. Il a fait beaucoup de films d'action. Et son travail, disons, bien sûr, moi je reconnaissais l'acteur avec lequel j'avais travaillé, mais Hollywood exigeait de lui un certain nombre de choses et il s'est adapté aussi parce que ses rôles exigeaient un autre type d'interprétation, plus extériorisé, disons. Et surtout dans les films d'action, bien évidemment. Mais aujourd'hui, alors qu'il a fait plus de 100 films, je crois qu'Antonio a montré qu'il était un acteur extrêmement versatile, adaptable, et il a su très bien gérer le passage du temps. Et j'espère, je sais que son présent est brillant, mais j'espère que son avenir sera différent, en plus d'être merveilleux.
Juste une petite parenthèse, Pedro Almodovar, quel effet ça vous fait d'avoir une voix de femme en français ?
Ça me semble très bien, ça me plaît beaucoup.
No, me parece muy bien. Una mujer y una rubia española.
Ça me paraît très bien qu'une femme, une blonde espagnole, me représente. Elle est mon véritable miroir.
No, yo también tengo una parte femenina.
Moi aussi, j'ai une partie féminine.
Muy
et donc, oui, elle fait ça très bien.
À l'issue du film, on se pose parfois une question. Salvador Mayo est-il Pedro Almodovar ou Pedro Almodovar est-il lui-même un personnage de film ? Laquelle de ces affirmations s'approche le plus de votre vérité ?
Moi, dans mon intimité, je ne me sens pas un personnage et pas un personnage de film non plus. L'origine du personnage se trouve dans la réalité. Dans plusieurs réalités, y compris la mienne. Alors c'est vrai que dans ce film, je me suis pris comme référence parce que le personnage et moi, nous avions beaucoup de choses en commun. Mais moi, je n'ai pas le sentiment d'être un personnage de film. Et étrangement, cela dit, une fois que le film a été fini, il y a plusieurs scènes qui ne me sont pas arrivées, mais après avoir fait le film, j'ai l'impression que le film m'a un peu vampirisée, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu ces scènes-là, mais en fait je les ai vécues en les tournant. En tout cas, moi, en tant que personne, je l'ai dit, je ne suis pas un personnage de film, mais je suis complètement vampirisé par le fait de faire des films. Et on peut dire que le cinéma me possède complètement, et donc, de ce point de vue, je fais partie peut-être d'un film parce que le cinéma est plus fort que moi.
Douleur et gloire, c'est le titre du film. Est-ce que la douleur et la gloire sont indissociables, selon vous ?
Je crois que ce qui est inséparable, surtout, c'est la douleur et la vie. La vie, si on a eu de la chance, si on a eu du succès, alors la douleur est incluse aussi dans ce succès. La douleur est toujours présente. C'est quelque chose qui est naturel dans l'être humain. Mais moi, je ne me plains pas de mes douleurs, de ce qui me fait mal dans ce film. Parce que je crois que dans ma vie, il y a eu plus de gloire que de douleur. Et quand je pense à la souffrance humaine, je crois que nous avons des exemples beaucoup plus tragiques que l'histoire d'un cinéaste qui a été opéré du dos et qui a cette longue liste de petites douleurs qu'on explique dans le film.
Merci Pedro Almodovar.
Merci Antoine.
Douleur et gloire, c'est sorti aujourd'hui. Bien, pop break dans ce pop 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 pour lancer les news.
Joie, bonheur et félicité, la coercition en mode câlin a fonctionné. Souvenez-vous, nous avons ici même relayé une pétition visant à faire remonter sur scène pour fêter à Cannes les 25 ans du film La Cité de la Peur, Alain Chabat et Gérard Darmon pour une carioca endiablée. Et hier, durant la projection du film en plein air, les festivaliers ont pu voir ceci.
Je peux plus résister. La pétition, tu savais pas plus résister.
Je sais plus danser la carioca.
Et hop, exaucé les 37 000 signataires de la pétition. Le commissaire Bialès et Serge Karamazov réunis le temps d'une danse et on les en félicite. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que nous avons aussi relayé la pétition L'Affaire du siècle visant à lutter contre l'inaction climatique. Du coup, on attend.
Vous, reste-t-il de la place dans votre discothèque pour 38 CD? C'est le nombre de volumes que comptera Woodstock 50 Back to the Garden, The Definitive. Un coffret qui retiendra donc les 432 titres joués durant le festival, dont 276 inédits. Au programme, entre autres, Merveille, Ravi Shankar, John Baez, Candide, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, Crosby, Stills and Nash, Les Who, The Band et bien sûr, lui. Jimi Hendrix et tous les autres à retrouver dans l'énorme coffret Woodstock 50 Back to the Garden The Definitive qui sortira au mois d'août.
Robert De Niro est de retour, mais pas pour un film, pour une publicité dans laquelle il est de Niresque. Bob qui fait la promo pour des bagels, ça donne ça et ça fait peur.
Mr. Warburton, Robert De Niro's waiting.
No, I'm not. Jonathan, what do you call this? Bolton Bakes Best Bagel? My butt.
Well, as far back as I can remember, I always wanted to bake bagels.
I'm not done. Me and my New York associates, we've been thinking, who's this skinny kid muscling in on the bagel business?
Skinny? That's awful.
I'm still not done. You got a nice family business here, Johnny boy. Very nice. And it's given me an idea. Picture this. I take my family business to Bolton. It's me, my crew, and some local mook team.
All right, lads. Here for the bakery tour.
Shut up and drive.
On vous met évidemment la pub dans son intégralité sur la page de Pop à Pop sur franceinter.fr, histoire de patienter avant de le retrouver dans The Irishman de Scorsese aux côtés d'Al Pacino, Harvey Keitel et Joe Pesci.
France Inter. Pop à Pop. Antoine Decaune.
Yes, it's me.
Joe Pesci. Enfin, sorte de version française.
Merci Charline. Avant d'accueillir la jeune stand-upeuse Shirley Soignon, écoutons She's About a Mover du groupe Tex-Mex, Sir Douglas Quintet.
Thank you.
Douglas Quintet, She's About a Mover, c'était en 65. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous accueillons...
Waouh.
Maintenant, bravo. Shirley Soignon, merci Shirley, ça me touche beaucoup.
Je suis vraiment impressionné.
Bah oui, moi aussi, je le fais tous les jours. Shirley Soignon, avant de parler de vos multiples actualités, rappelons que votre précédent stand-up était intitulé Monsieur Shirley. Comment dois-je donc vous appeler en ce vendredi, patron?
Vraiment comme vous voulez.
Shirley tout court.
Monsieur la patronne, est-ce que vous voulez?
Monsieur la patronne, Shirley tout court.
Shirley tout court, c'est parfait.
Shirley tout court.
C'est un peu long, mais...
Shirley tout court.
Monsieur la patronne, Shirley tout court.
Alors, vous venez nous parler, Shirley tout court, de Vivement Dimanche, avec Michel Drucker.
Michel Drucker.
Drucker, ah pardon.
C'est pas la même personne.
Ah, c'est pas tout à fait le même.
Faut pas confondre.
C'est pour ça que je vais rajouter un nœud à la fin pour qu'il y ait,
ah oui, pourquoi, y ait pas de confusion. Pourquoi Drucker nœud.
Drucker.
C'est pas mal ça, Drucker nœud. Michel Drucker nœud.
Donc, Shirley, votre podcast Edo, ouais. D'où vous est venue l'idée de ce, je vous cite, un PMU, le plus classe du dimanche. C'est quoi? C'est l'amour des canapés rouges et des chiens naturalisés?
Alors nous, on a un petit canapé noir, non? Et puis on a, oui, on a le petit chien, effectivement aussi. C'est pas
vivant.
Fait exprès. Vivant. tout le monde est vivant dans mon podcast. Ouais. Et non, mais en fait, l'idée de faire ce podcast est l'idée surtout de réunir des copains, de l'humour, de la chanson, de n'importe quel domaine, en fait, parce que j'ai jamais le temps de les voir en dehors du travail, parce qu'on est toujours en tournée à gauche, à droite, et je me suis dit, ça va être l'occasion de se voir, de discuter, donc j'invite que des gens que je connais un peu au moins.
Bah, c'est comme Michel Drucker, quoi, en fait.
Oui, exactement, il connaît tout le monde, c'est vrai qu'il connaît tout le monde. Mais oui, c'est la même chose, on discute, mais c'est pas la même génération.
C'est un peu plus rapide, on va dire, enlevé dans le rythme. Ouais. Vivement Dimanche, Michel Drucker, vous avez pas peur d'être épinglé par un copie comique?
Ça serait avec plaisir pour ça. Ah, ça serait vraiment avec plaisir. Mais on aimerait bien que Michel Drucker vienne. Ça serait notre rêve, en fait.
Mais alors, voilà, justement, notre rêve caché. Le monsieur qui occupe normalement le canapé, il vous a donné son aval pour le site?
Mais pas du tout. J'ai demandé à mon avocat, il a dit si on change la fin, c'est bon. J'ai un très mauvais avocat, je sais. Donc, je change.
Changer d'avocat.
Better Call Saul.
On s'est dit que si jamais il y a un problème, on changeait pour touche pas mon poste. Voilà.
Là, c'est moins risqué. Ah,
c'est beaucoup plus risqué. On peut s'amuser. C'est surtout l'idée de se dire qu'on s'en fout, qu'on est là pour s'amuser. Et que c'est vraiment n'importe quoi, cette émission, parce que le podcast, on n'a rien, on prépare pas. Vraiment, on sait jamais ce qui va se passer. Et c'est ça que j'aime bien, c'est l'instant présent du podcast.
Quoi. Un peu comme nous, quoi. Mais en fait, si vous... Quoi?
C'est pas vrai. Mais arrêtez de propager de fausses rumeurs.
Si vous invitez Drucker, je suis sûr qu'il viendra.
Bah, j'en suis je pense qu'on va le faire.
Tout à fait.
À la dernière, on aimerait bien, avant l'été.
Alors, dépêchez-vous quand même.
Ouais.
Alors, vous avez fait partie du Jamel Comedy Club, presque une troupe. Est-ce pour cela que vous avez décidé de faire du stand-up une pratique plutôt solitaire, un exercice collectif auquel vous vous livrez dans votre stand-up privé que vous jouez au Jardin Sauvage et pour lequel vous accueillez sur scène différents stand-uppers. Je sais, cette question est interminable.
Mais elle est géniale. Merci beaucoup. Merci de savoir tout ça déjà. Je crois que ça vient du basket, en fait, parce que j'ai fait du basket, j'ai commencé à 8 ans. Et ça, c'est un sport co, effectivement. Et j'étais meneuse. Donc, je distribuais la balle. Et c'est vrai que pour moi, j'ai fait aussi du théâtre très jeune. L'idée d'échanger, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me permet d'être aussi solitaire. Mmh. On est solitaire parce qu'on est aussi avec les autres, des fois, quoi.
Ouais.
Et donc, j'ai ce besoin d'échanger avec les gens de mon métier,
Le stand-up, c'est à la fois votre art et votre sujet, puisque vous aviez aussi réalisé un documentaire dont on avait parlé ici, intitulé « Le stand-up français au smartphone ».
Je m'appelle Shirley, et quand j'ai commencé, ce que j'aimais, c'était faire rire les gens. Ça a marché, et je me suis retrouvé en télé. Le truc, c'est que pour faire du bon stand-up, faut plutôt faire des plateaux et se planter. Alors en 2016, j'ai tout recommencé. Et je me suis rendu compte que peu de gens savaient ce que c'était. J'ai donc décidé de prendre mon téléphone pour filmer mes potes et vous parler tout simplement du stand-up français.
Pourquoi ce besoin d'interroger votre pratique et comment est-ce que vous le définiriez aujourd'hui, vous, le stand-up français, ses particularités?
Oui, alors ce besoin de le définir parce que j'ai commencé et le stand-up venait d'arriver avec le Jamel Comedy Club. Moi, je voulais faire de l'humour, je savais pas vraiment ce que c'était, du sketch, du stand-up. Et donc, mon premier spectacle, je l'ai appelé Sketch-up, justement, parce que je savais pas du tout ce que je faisais. Je laissais moi faire des blagues, juste.
C'est un jeu de mots.
C'est un jeu de mots, ouais.
Je l'ai là.
Ouais. je regrette beaucoup ce jeu de mots. Mais il y a un rapport avec la sauce tomate, les gens vraiment partaient loin, plus loin que moi. C'est vraiment, non, j'ai vu, je sais pas si c'est du stand-up ou pas. Et puis, j'ai commencé à découvrir George Carlin, Chris Rock, Eddie Murphy, enfin beaucoup, beaucoup de stand-uppers américains, parce que Kian Kojandi nous passait avec Baptiste Le Caplin, des disques durs avec plein de stand-up américains. Je commençais à regarder, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, en fait. George Carlin, ce qu'il fait, c'est même plus des blagues, pour moi, à son niveau, c'est des vérités. C'est tellement des vérités fortes. morte. Que, et la vie est tellement absurde que des fois, il suffit juste de la dépeindre pour que ça soit drôle, en fait. Et donc, il a un rire qui n'est pas de l'ordre de la joie, mais de « Oh ouais, ouais, c'est fou !» Et c'est ça que je voudrais atteindre. Ouais.
Et le « à la française », ce serait quoi, du coup?
On a une autre culture que les Américains, donc forcément, notre façon d'aborder le monde, de parler, est différente. Et donc, je le découvre en même temps que je le fais, parce que c'est tellement récent que...
Et je précise que le doc est toujours dispo dans son intégralité sur YouTube.
Toujours, ouais.
Qui placez-vous dans l'Olympe du stand-up?
Français?
Français, international, peu importe.
Très bien, alors George Carlin vraiment fait partie des grands pour moi. Yacine Bellous.
Oui.
Yacine Bellous, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé aussi dans le stand-up et qui est formidable parce qu'il fait du stand-up absurde, qui est différent du stand-up qu'on peut connaître, plus basique, de parler de sa vie, etc. Lui, il va vraiment partir faire parler une flaque avec Donald Trump. J'aime beaucoup ce côté dessin animé cartoonesque de Yacine. Et puis Blanche Gardin, qui est une amie et qui me fait vibrer quoi. Dès que je la vois sur scène, j'aime le rire qu'elle provoque chez les gens, la fissure dans le cerveau des gens qu'elle fait, les gens qui saignent du nez. Briser ma vie. J'aime beaucoup ce rire.
Pas d'anglais dans vos inspirations.
Eddie Izzard, je pense à Eddie Izzard aussi évidemment.
Moi,
ouais, parce que j'ai en plus j'ai joué avec lui. Enfin, il jouait dans le même théâtre que moi au théâtre de 10 heures et je l'ai découvert en tant qu'humain en plus et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
Extraordinaire.
Ouais, j'aime beaucoup cet homme. Ouais.
Et puis ce sens de l'improvisation, de l'association libre.
Mais c'est ça, mais en fait, c'est Yacine Bellous qui m'a fait découvrir Eddie Izzard en premier et ils sont devenus amis et je suis entré dans leur cercle et c'est pour ça que j'ai pensé à Yacine en premier.
Parce que Yacine Bellous qui ouvrait d'ailleurs sur le rodage du spectacle d'Eddie Izzard quand il est venu l'année dernière en France.
Je me souviens.
Oui.
Ouais. Ouais, souvent, il ouvre.
Vous êtes très singulière dans votre manière d'envisager et d'appréhender votre métier. Pour autant, avez-vous l'impression d'appartenir à une bande?
Non, hein. Même si je partage, je suis très collective. Ma bande, c'est moi-même avec mon chien que vous avez vu tout à l'heure. c'est ma bande.
Comment il s'appelle votre chien?
Lucky.
Ah oui, c'est vrai, Lucky.
Ouais, Lucky, dit, Lucky.
Ouais. Je l'ai dit il y a 3 minutes.
Oui, je voulais pas manquer de respect.
Ouh là là,
monsieur, il est fatigué.
Il est ravissant. Non, c'est vrai.
Il est cool.
Oui, c'est un petit
Parson Russell.
Voilà, Parson Russell.
Ne me regardez pas, hein.
C'est un chien. C'est un chien.
Ah oui, c'est un chien. Oui, c'est ça.
Il s'appelle Charlie Soignon. Elle fait du stand-up, elle est, voilà. Sur votre chaîne YouTube, puisque vous avez aussi une chaîne sur laquelle vous postez très régulièrement, voire
tous
quotidiennement,
les jours,
voilà. On vous voit exercer de votre voix, musicalement, j'entends, comme dans cet extrait avec Eleonore Coste, avec qui vous vous attaquez aux Pixies. Try this trick, and it's better than yeah. Alors si je fais le tour, podcast, scène, musique, docu, série, puisqu'on vous a aussi vu dans la série Engrenage. Mmh. Il vous manque quoi aujourd'hui?
Tout va bien. C'est vrai que tout va bien. J'aime pas être dans le manque ou dans le besoin d'objectifs. Non, je suis dans l'instant présent au maximum. Et donc tout va bien. Il y a des moments plus durs que d'autres parce qu'on pourra aller sur son chemin et ce qu'on veut faire, il faut s'accrocher parfois, mais non, ça va.
C'est cool, ça. Tout ça se complète et me semble
absolument
cohérent.
En plus, je suis ravie. J'ai fait Netflix avec.
Absolument.
Je pense que c'est la meilleure plateforme pour faire du stand-up cette année. Cette année, c'est une belle année pour moi. Franchement, là, je demande rien de.
Donc vous avez
de l'eau potable, que ça continue.
Vous êtes abonné à Netflix?
Oui, je suis abonné à Netflix. Ouais, je paye pour me voir. Ouais.
Et le successeur de Monsieur Charlet, il est prêt?
Monsieur Charlet va reprendre en tournée. D'accord. En fait, je propose sur mon site que les gens proposent leur ville, en fait, ça, parce que j'en ai marre de dire je viens à Strasbourg et que les gens disent viens à Lyon.
Donc, stand-up à domicile.
Ouais, choisissez.
Génial.
Ouais.
Bien, merci Charlet Soignon.
Merci à vous, merci
beaucoup. Nous sommes vendredi, c'est le jour de livraison du grand n'importe quoi. Je vais aller voir à la cave s'il a été livré. T'es qui, toi? Un canard? Un canard qui me livre un magnéto? Ah, une canne! Ah, c'est ton festival! Vous commencez vraiment à me gaver avec cette blague pourrie-là, hein. Oui, c'est ça, gavé, oui, c'est drôle pour un canard. Allez, tiens, reste là, ça va te plaire, ça.
Grifouk anie kofla.
Prenez un oignon.
Prostni grosla.
Épluchez-le. Puis, insérez-le dans le canard. Voilà. Et maintenant, au four à micro-ondes. Voilà, c'est prêt.
N'importe quoi.
Bon, écoutez, ça suffit. Et je vous demande
d'arrêter de
déformer mes propos.
Mais arrêtez!
Arrêtez, meurtre!
Arrêtez!
conseillers sont occupés pour le moment. Votre temps d'attente est estimé à
1000 milliards de milliers de minutes.
Veuillez patienter.
T'es qu'une grosse merde et tes problèmes, on s'en fout. Crève la gueule ouverte, on te chiera dans le cou. T'es qu'une grosse merde, arrête de nous appeler. Tes problèmes, on s'en fout. Va donc te faire enculer.
Il est passé où le canard ? Oh, merci Alexandre Verret, le grand n'importe quoi, c'est chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Avant de remonter, je vais vous jouer un petit morceau, tiens, Johnny Rockefeller, j'aime pas le rock.
Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable.
J'aime pas le rock.
Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable.
J'aime pas le rock. Je vous dis que j'aime pas le rock.
Tu n'aimes pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Tu n'aimes pas le rock.
Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock.
Tu n'aimes pas le rock.
J'aborde le rock. Je méprise le rock. J'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable.
S'il aime pas le rock.
Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable.
Pourtant le rock c'est battre quoi.
Il n'aime pas le rock.
Ah non j'aime pas le rock alors, ah non.
Il n'aime pas le rock.
Ah non ça me dégoûte le rock alors, ah j'aime pas ça alors.
En 1959, j'aime pas le rock, c'est pas moi qui le dis, hein, mais Johnny Rockefeller, c'est un morceau pour terminer ce pop pop pop. Merci Shirley Soignon.
Merci à vous vraiment, merci pour l'invitation.
Vivement dimanche, c'est à retrouver chaque... Eh ben,
tous les dimanches.
Dimanche, évidemment.
Venez à l'enregistrement tous les dimanches au Jardin Sauvage.
Voilà, c'est où ça exactement le Jardin Sauvage ?
Sous la Cité de la Mode, Dicke d'Austerlitz.
Voilà, wow. Tous les renseignements sur les internets, comme disent les milléniaux aussi. On vous retrouve dans la vraie vie, un mercredi sur deux à la Péniche, donc le Jardin Sauvage, avec ce stand-up privé et sur votre chaîne YouTube avec une vidéo tous les jours.
Et si vous voulez voir Monsieur Shirley, allez faire vos suggestions sur le site de Shirley Soignon.
Absolument.
Absolutely. Merci.
Petit extrait sur Netflix.
Merci.
Ça s'arrête jamais, c'est fou.
De Pop Pop Pop, Ghislain Fontanis à la réalisation, à la technique Stéphane Beauja, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire Sophie Cole et Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Lundi dans Pop Pop Pop, eux. Et la journaliste Charlotte Bloom. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme dit Shirley Soignon à la fin de ses tutos.
Abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi, vraiment.
Abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux. Le 3615, pop, 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 sur Instagram. Une merde.